Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias.
Et tout le monde s'en fout.
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 Et tout le monde s'en fout. C'est le nom de la chaîne YouTube dont je vais vous parler cette semaine. L'équipe qui produit ces vidéos fait une pause après 80 épisodes consacrés à nos préoccupations du quotidien. L'éducation, l'amour, la planète Terre, les vêtements ou encore les politiques. Tous ces sujets sont discutés face caméra par un personnage, Lexa, qui nous interpelle en mettant le doigt là où ça fait mal, dans nos façons de faire ou de penser. Avec le journaliste Marc Debony, une des chevilles ouvrières des Tout le monde s'en fout, retour d'expérience sur une aventure éditoriale singulière dont on peut difficilement se foutre. I don't want to set the world
on fire. Je voudrais te parler d'un truc qui blesse. Ton estime de toi, tu te souviens ? Parce que vu les ambitions actuelles, qui varient entre ne pas faire de vagues ou dominer le monde, on dirait que le principe est pas clair dans la tête de tout le monde. L'estime de soi, c'est pas quand tu crânes. C'est pas quand tu me respectes, sinon je te m'arrache, t'as vu ? C'est pas non plus quand t'as raison.
Oui, je sais, ça dépend pas non plus de ton nombre de vues sur YouTube. Hein.
Et surtout, ce n'est pas ce que tu vaux.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, si j'achète une Mercedes, je gagne combien de points d'estime ? Et si je prends les vitres teintées ?
L'estime de soi, c'est une estimation.
C'est pour ça que c'est ce mot-là. Pour ton cerveau, c'est l'estimation de la distance qu'il y a entre la personne que tu crois être et la personne que tu rêves de devenir. Bref, plus la distance entre toi et celui que tu rêves de devenir est grande,
et plus tu trouves que t'es pourri. Je te laisse le temps d'intégrer.
Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous avez publié il y a bientôt 3 semaines le dernier épisode des Tout le monde s'en fout, épisode 80, et très vite sur les réseaux et dans la description de la vidéo sur YouTube, vous avez ressenti le besoin de préciser que ce n'était qu'un arrêt temporaire et qu'il y aurait quelque chose après.
Alors oui, forcément, ça va faire un gros trou parce que ça fait 5 ans que c'est notre activité professionnelle principale et on a eu besoin de préciser qu'il y aurait une suite parce qu'on est à un moment charnière un peu difficile dans un projet créatif qui est tourner une page, ouvrir un nouveau chapitre et on espère que notre communauté sera en partie au rendez-vous. Et du coup, voilà, on était un peu pris entre deux feux, entre le besoin de marquer ce point final important d'une réalisation de 5 ans d'âge et de l'autre côté, que les gens comprennent bien que c'était pas juste terminé, on met la clé sous la porte. Donc voilà, on est avec des moyens de communication artisanaux et on a essayé du coup de faire au mieux pour passer ce message. Ouais.
Rembobinons un peu, racontons le début de cette aventure. C'était fin janvier 2017, il y a 5 ans, donc c'est parti d'une idée de votre frère, Fabrice Debony, et d'Axel Latuada, qui donc est ce personnage, Lexa, que l'on voit dans Et tout le monde s'en fout. Tous deux sont producteurs de métier, ils avaient envie de partager, de produire et de partager des vidéos sur les sujets qui les animaient au quotidien, et ils ont commencé avec des petits moyens dans une cave.
Alors oui, en fait, c'est né d'un moment d'ennui, un samedi après-midi, alors que Axel et Fabrice sont dans un moment de creux professionnel. Et du coup, ils vont dans une cave parce que ils étaient en coloc à ce moment-là, ils voulaient pas déranger les colocataires. Donc c'est vraiment, la contrainte maximum qui nous a donné un petit peu le format. Et c'est en s'adaptant à ces contraintes que on a créé un peu l'identité de la série. Et en gros, ils se sont inspirés de nos dîners de famille, de nos débats avec des bières, le point tendu au-dessus de la table. Et un des sujets qui revenait très souvent, c'est les inégalités de genre, la condition des femmes. Donc ça s'est un peu imposé comme une évidence. Et puis quand ils ont fait cette vidéo, contre toute attente, c'était pas prévu pour, elle a eu beaucoup de succès. On l'a postée sur le site auféminin.com et en 3-4 jours, on se retrouve à 10 millions de vues. Et là, ils font appel à moi. Donc moi, j'étais journaliste vidéo déjà à l'époque. Enfin, j'avais un parcours de journaliste vidéo, j'étais grand reporter politique au Figaro, et donc il m'appelle pour essayer de structurer un projet éditorial, sortir une série de sujets, essayer de comprendre aussi quelle était la matière sur laquelle on travaillait, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce que le public plébiscitait, et donc à partir de ce premier épisode, on a tiré tous les trois les fils du concept qui a donné la série qui a duré 5 ans.
Avec un mantra qui est commun à vos parcours à tous les trois, et notamment à vous, votre parcours journalistique, éditorial, c'est que c'est en faisant que l'on apprend.
Exactement. C'est en faisant que l'on apprend et c'est en faisant ce que l'on aime et ce que l'on sait faire qu'on arrive certainement à se dépasser aussi. Une des choses que nous a appris, et tout le monde s'en fout, c'est que c'est en allant vers ce qui est facile, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire, qu'on est excellent. Et en fait, on était tous des professionnels de l'audiovisuel d'une manière ou d'une autre, ce qui explique aussi le succès très rapide, parce qu'il n'y a pas de recette magique. En général, faire monter un projet sur YouTube, c'est des mois, voire des années de travail. On a eu la chance, nous, que ça aille très vite, mais ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on avait, en fait, déjà des habitudes de travail, des techniques héritées du cinéma ou du journalisme qui nous ont permis d'aller plus vite.
Parlons justement, oui, de ça, de ce travail sur la forme, notamment. Déjà, un travail sur le personnage, donc avec Lexa, qui parle face caméra, qui a des lunettes, une capuche, des phrases qui reviennent. Et beaucoup d'humour aussi, des traits d'esprit et beaucoup d'humour.
Alors en fait, on a voulu essayer de créer une persona, comme on dit, du social justice warrior, c'est-à-dire cette personne qu'on a tous été à un moment ou à un autre sur les réseaux sociaux, qui veut avoir raison jusqu'à très tard dans la nuit, qui va commenter à l'infini des discussions qui tournent en rond. Et donc on a essayé de faire un syncrétisme un petit peu dans ce personnage et on s'est dit bah tout bêtement c'est donc un geek qui sort jamais et qui commente le monde derrière son clavier quoi et donc on voulait un peu faire réfléchir le public sur cette posture. Un des caractéristiques de Tout le monde s'en fout, c'est une série qui réfléchit sur elle-même tout au long de ce qu'on pose comme avancée argumentaire. Et notamment, par l'humour, en fait, on essaye aussi de remettre en question un certain nombre de comportements du personnage qui sont pas du tout alignés avec ce qu'il prône. Notamment, nous, on parle de bienveillance, on va parler d'écoute active, on va parler de prendre soin des relations. Or, on est face à quelqu'un qui parle de manière très condescendante, qui envoie des punchlines, qui se moque de la mauvaise orthographe des gens qui commentent, et donc qui, au final, est pas très agréable. On pense que, et tout le monde s'en fout, c'est une série très française culturellement, parce que ces traits d'humour qui sont basés un peu sur la colère, sur l'ironie, en fait, marchent très bien dans notre culture. On est éduqué comme ça. On a beaucoup de parcours, de passages dans notre parcours où on va employer justement cette condescendance dans un cadre éducatif, ce qui fait que, de manière assez contre-intuitive, le public a beaucoup apprécié cette manière de parler. Pour tout vous dire, on s'est inspiré de notre maman. Donc Fabrice, le réalisateur, est mon grand frère. Et donc, c'est notre maman qui nous parle comme ça. Et il s'avère que le public a été très réceptif. Une fois, on nous a même dit, une personne nous disait « J'adore la manière dont vous écrivez, je me parle comme ça dans ma tête. » Et ça nous a vachement inquiétés. On s'est dit « Ouh là là, il faut vraiment qu'on mette un point de recul par rapport à ça et que les gens, à la fin de la série, comprennent que c'est pas admissible de se faire parler comme un enfant de 4 ans qui comprend rien, quoi. » Et c'est pour ça que, d'ailleurs, à la fin de la série, notre personnage va abandonner ce comportement et essayer de devenir un petit peu plus vivable.
Dans les sujets, dans les préoccupations, on est pourtant dans une approche qui est très universelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes sur l'environnement, sur l'amour, etc. Donc, pour autant, ça peut parler à tous les publics.
Alors, il y a des thèmes très très variés dont tout le monde s'en fout, mais si on regarde de près, il y a un fil rouge conducteur. En fait, notre thème principal, c'est la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est ? Pour résumer et simplifier, c'est le sentiment de malaise que l'on peut ressentir quand, par exemple, notre comportement il n'est pas aligné avec ce que l'on sait ou avec ce que l'on croit. Un exemple très concret, c'est fumer la cigarette. Il est écrit sur le paquet que fumais-tu ? Et pourtant, beaucoup de gens, moi y compris, hein, fument des cigarettes en disant c'est un plaisir. Et là, on est dans un cas complètement de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on va tordre une réalité qui est fumais-tu pour en faire un péché mignon, quelque chose de sympa, voire une liberté, quelque chose comme ça. On pense, nous, que la dissonance cognitive et le fait que les gens ne soient pas éduqués, en fait, à cette notion, est pour partie responsable de beaucoup de problèmes de la société, et notamment de notre rapport à l'environnement. Ce sujet a été assez bien illustré par le film Don't Look Up, qui raconte vraiment cette stratégie de l'autruche un petit peu, hein, qu'on peut avoir par rapport aux problèmes de contexte. Et c'est pareil, on pense pour les relations humaines, les relations hommes-femmes, et le rapport qu'on a à soi-même. C'est-à-dire que, à tous ces endroits, on est un peu dans des angles morts de la réflexion où on avance à l'aveugle, et notamment les hommes, c'est-à-dire les hommes, les porteurs de pénis, qui, dans notre société aujourd'hui, ne sont pas éduqués à prendre soin d'eux, ne sont pas éduqués à exprimer leurs émotions. Il y a tout un travail, à mon avis, comme ça, de remise en cohérence avec ce que nous sommes en tant qu'êtres sensibles, qui, à notre avis, permettra de régler pas mal de soucis. Et donc, c'est pour ça qu'on va aborder, en fait, plein d'aspects qui peuvent paraître très différents, mais toujours avec ce même fil rouge de la dissonance cognitive. Et aussi un principe qui est très très simple, hein, qui est que si on veut changer les choses, il faut commencer par se changer soi-même. Et donc, un épisode sur deux, on va traiter d'un sujet personnel et intime, et un épisode sur deux, on va traiter d'un sujet macro, d'un sujet qui concerne la société, le monde, avec cette idée qu'il y a un ping-pong permanent entre l'individu et la collectivité, et que l'un ne peut pas évoluer sans l'autre.
Pour faire pousser ton estime de toi, il te faut au moins 8 personnes sur qui tu peux compter, selon le psychologue et coach David Lefrançois. Non, ta mère ne compte pas pour deux. Il faut que tu connaisses tes limites et que tu les respectes.
Non, le sel, ça bouche les artères.
Et enfin, il faut être capable de penser au présent.
Parce que souvent, quand t'angoisses, c'est que tu projettes dans le futur un truc de ton passé.
Tu trouves ça pertinent de flipper d'un truc qui n'existe pas en te fondant sur un truc qui n'existe plus? Tu peux prendre une minute pour réfléchir.
Et quant à tout ça, il te suffit de commencer à parler,
à bouger,
à t'habiller,
à raisonner, comme celui ou celle que tu veux devenir. Et c'est là que tu le deviens, puisque c'est toi qui fais comme lui.
Tu suis toujours ?
Vous écoutez l'Atelier des médias, mon invité est le journaliste Marc Debony, pour revenir sur l'aventure de la chaîne YouTube nommée « Et tout le monde s'en fout ». L'idée, c'est de donner à penser, de donner à réfléchir. Et votre frère, d'ailleurs, Fabrice Debony, est coach en neurosciences appliquées. C'est son dada, hein, si je comprends bien.
Complètement. Notre objectif, avec Et tout le monde s'en fout, c'est pas un programme militant. En fait, c'est un programme qui a un contenu politique, mais on cherche pas forcément à convaincre les gens de penser comme nous. Notre objectif, comme le nom l'indique, c'est que les gens arrêtent de s'en foutre. C'est pour ça qu'on va utiliser ce petit truc, hein, de mettre un titre déjà qui va titiller. On va avoir ce personnage avec un ton agaçant, il parle la bouche pleine, on a tout un tas de petits dispositifs comme ça qui vont venir piquer nos émotions et nous mettre dans un état un peu de confrontation, d'alerte. Et l'idée, c'est que en 5 minutes... quoi que ce soit que vous ayez retenu, vous ne vous en foutiez plus du sujet, même si vous n'êtes pas d'accord. Une de nos plus grandes victoires, ça a été un hater, comme on dit, donc c'était un masculiniste, un youtubeur masculiniste qui a fait 45 minutes de vidéo sur une vidéo de 5 minutes qu'on a fait sur le féminisme, et lui, pour le coup, il a vraiment arrêté de s'en foutre, quoi. Donc même s'il n'était pas d'accord, c'était un succès.
Depuis le début de cet entretien, vous avez utilisé, je crois, 2 ou 3 reprises le terme « émotion ». Et d'ailleurs, « émotion », c'était le sujet de l'épisode 3 de « Tout le monde s'en fout », qui est l'épisode le plus vu, 2 250 000 vues environ au moment où on se parle. J'imagine que c'est un petit succès aussi.
Alors, clairement, c'est l'épisode le plus regardé, et notamment parce qu'il est beaucoup utilisé en formation. Et aussi dans le cadre d'interventions scolaires, de choses comme ça. En fait, cet épisode, il revient sur quelque chose de tout simple et qui est assez dingue, qu'on nous apprenne pas du tout. C'est, on nous apprend l'hygiène du corps, on nous apprend à essuyer nos fesses après aller aux toilettes, on nous apprend à nous laver les dents. Mais par contre, à nettoyer nos émotions, la circulation émotionnelle, on nous apprend pas. Pire que ça, on nous apprend même à les cacher, à les mettre sous le tapis, notamment les messieurs. Et les faits, c'est souvent des comportements qu'on va appeler toxiques derrière, donc toxiques pour soi ou toxiques pour les autres. Quelque chose que l'on connaît très très bien en Occident, c'est les ravages de l'alcool pendant tout le 19e siècle, tout le 20e siècle. Beaucoup de pays, et notamment les hommes dans beaucoup de pays, ont été fortement impactés par l'alcool. Bah, c'était, nous on croit en tout cas, un moyen de gérer des émotions dans un contexte où on ne nous apprend pas. Et un film qui nous a beaucoup, beaucoup marqué, tous les trois, ça a été Vice Versa. Et donc, cet épisode sur les émotions, hein, il n'invente rien. On est allé rechercher le béaba des travaux de psychologie sur le sujet des émotions, et on s'est aperçu qu'il y avait un énorme besoin là-dessus. Parce que finalement, les gens ont du mal à comprendre ces messages que notre corps nous adresse à nous-mêmes.
Marc de Bonny, vous êtes le journaliste de cette équipe de Et tout le monde s'en fout. Pour chaque épisode, eh bien, cela représente pour vous des heures et des heures de travail, un travail journalistique et avec une attention aux sources et au fait de citer les sources, notamment dans les commentaires en description des épisodes sur YouTube.
Alors, tout à fait, un des objectifs de la série, comme on disait, c'est que les gens arrêtent de s'en foutre et récupèrent, entre guillemets, du pouvoir personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire une marge d'action sur les sujets qui les dépassent, typiquement l'environnement, typiquement le rapport aux femmes. Et donc, c'était très important de mettre les sources en partage. Parce que je crois que le public a besoin aujourd'hui de pouvoir refaire le chemin d'une pensée. Il a besoin de pouvoir se forger ses propres idées. Et dans la mesure où, personnellement, je suis un journaliste qui ne croit pas à l'objectivité journalistique, je pense que c'est une invention commerciale de la télé privée des années 80, et je crois par contre à l'honnêteté intellectuelle. Et donc le fait de proposer des sources, ça permet à chacun de comprendre le cheminement de la pensée, de le retracer et de voir de manière transparente pourquoi est-ce qu'on arrive à une conclusion ou à un point. Et l'idée, c'est que les gens puissent refaire un autre chemin aussi, avec ces mêmes sources, en ajouter d'autres. Et on les valorise du coup, après chaque épisode, on va faire une publication qui s'appelle « Remonter à la source ». Et en fait, ça permet de venir creuser des points qu'on n'a pas pu développer dans l'épisode et qui ont fait parfois polémique dans les commentaires. Et donc, on a créé vraiment un système vertueux qui fait que la communauté s'est vraiment emparée de ces sujets et avait confiance aussi pour les partager. C'est bête, hein, mais une vidéo sur YouTube, si elle est seulement vue, c'est 50% de l'objectif. La vidéo doit être vue et partagée, c'est indispensable parce que c'est un média social et qu'il utilise les réseaux sociaux pour être diffusé. Et du coup, cette proposition de source permet aussi que les gens soient plus en confiance pour s'envoyer les vidéos un peu comme une balle de tennis argumentaire. Et voilà, et s'éviter parfois 2-3 heures de longs discours. Donc c'est l'idée, c'était que chacun se sente investi de la capacité de s'emparer du débat.
S'emparer du débat, justement, vous parlez de la communauté, c'est une grosse communauté, 676 000 abonnés sur YouTube au moment où on se parle, et sur YouTube, eh bien, on peut regarder, on peut mettre des pouces en l'air ou en bas, et on peut aussi commenter. Et sous certains épisodes, eh bien, il y a des centaines, même des milliers de commentaires, c'est un espace de témoignage, et même parfois de libération de la parole, j'ai remarqué, sur certains sujets.
Complètement. Quand vous avez posé la question, j'ai eu en tête tout de suite l'épisode sur l'inceste, qui est un qu'on a fait parmi les derniers dans la saison 4, très très important pour moi, parce que ça a été pour moi un des moments où on a vraiment le mieux utilisé la tribune qu'on avait pour pouvoir porter un sujet avec des conséquences dramatiques qui est extrêmement répandu, contrairement aux idées reçues, et dont personne ou très peu de gens parlent, parce que c'est encore difficile. Et effectivement, par exemple, sous cet article, on a eu énormément de remerciements, de témoignages de gens qui se sont sentis moins seuls, qui se sont sentis entendus. Ça illustre bien, pour le coup, moi je dirais, c'est peut-être ma plus grande fierté, ces commentaires, hein, sous les vidéos, parce que ça illustre bien que la communauté s'en est saisie. Et on a fait très attention, dès le début, à avoir un community manager. Ça a été, pour être honnête, le premier vrai poste payé qu'on a eu dans l'équipe, parce que c'est bien de faire des vidéos, mais il faut surtout qu'elles soient vues par les bonnes personnes et du coup partagées, et donc avoir un agent de stimulation de ces débats, ça a été pour nous hyper important. Et aussi pour pouvoir avoir des lieux d'échange qui soient, entre guillemets, des zones de sécurité psychologique aussi. On se fasse pas forcément agresser, vilipender, comme ça peut être parfois le cas sur Internet. Je dois dire quand même qu'on a une communauté d'une excellente qualité, parce que la plupart du temps, les débats se gèrent tout seuls. On a eu vraiment très très peu de censure à faire, sauf quelques cas très spécifiques. On avait des attaques ciblées de groupes militants et souvent masculinistes notamment. Mais en dehors de ça, je dois dire que les gens se sont emparés de manière très civile et très argumentée des sujets, et parfois sont allés plus loin que ce qu'on a pu faire en 5 minutes. Et pour nous, là, c'est vraiment le 100% de la réussite, quoi. C'est que quand c'est le public qui va plus loin que ce que la vidéo a pu amorcer, on a réussi notre coup.
Neurosciences appliquées. Pour simplifier, t'as 4 émotions principales. La colère.
Bonsoir.
La tristesse.
Bonsoir.
La peur.
Bonsoir.
Et la joie.
Salut.
Et quand une de ses émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Fais un truc.
L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit « réagis ».
Par exemple, la colère, elle te le dit pas.
Mais tu vois pas que c'est rouge, connard !
Elle te dit
« j'ai besoin que mes valeurs soient respectées ». Merci, voilà, merci.
Et fais gaffe. Quand t'es en colère, tu produis du cortisol. Et le cortisol, quand on a trop, à la longue, ça ronge tes neurones.
Mais ça te permet d'attaquer.
T'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur Internet ?
Non mais c'est juste un exemple.
Pour une minute de colère, il faut une heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol. 5 minutes, 5 heures. Tu me dis si je vais trop vite.
Et la tristesse, elle te dit pas.
Non mais parce qu'elle après elle est repartie, enfin.
Elle te dit.
Désormais, je suis disponible pour un renouveau. Donc en gros, quand t'es triste, c'est que ton cerveau a compris que c'était fini. Mais pas toi. Et que si tu commences autre chose, eh ben t'arrêtes d'être triste.
Marc Debony, parlant du modèle économique des vidéos de « Et tout le monde s'en fout », évidemment c'est sur YouTube, donc il y a de la publicité, vous avez également une cagnotte sur Utip, vous avez fait quelques partenariats, vous avez fait 2 livres, un jeu, est-ce que « Et tout le monde s'en fout » rentre dans ses frais ou est rentré un jour dans ses frais ?
Alors ça a été très difficile évidemment et tout le monde s'en fout. Je dirais qu'une des limites de la série certainement c'est que c'est une Rolls Royce pour YouTube au sens pas que c'est forcément plus beau que les autres mais c'est très cher. C'est très cher parce qu'on s'est inspiré du savoir-faire du cinéma et qu'on a eu aussi à cœur de rémunérer quand c'était possible les membres de l'équipe. Donc on s'est fait une règle de se payer tous pareil sur le plateau. Alors c'était pas beaucoup mais c'était tous pareil. Et on a dû effectivement composer un modèle économique hybride avec plein de rentrées d'argent. Parce que aujourd'hui, en 2017, quand on a commencé, mais c'est vrai encore plus en 2022, YouTube n'est plus un lieu où on peut gagner sa vie simplement en postant des vidéos, sauf à s'appeler Squeezie ou Cyprien et avoir beaucoup d'ancienneté et puis un flux de plusieurs millions de vues par vidéo quasiment instantané. Aujourd'hui, YouTube, c'est une vitrine, c'est-à-dire qu'on va avoir une très belle audience et on va pouvoir y faire démonstration de son savoir-faire. Et donc nous, on a vraiment misé sur cette stratégie avec l'idée qu'on allait gagner de l'argent par ailleurs. D'ailleurs, pendant 3 ans sur 5, on n'a même pas activé la publicité. C'était une volonté d'engagement de ne pas alimenter ce système-là. On a été obligé de le faire parce que les algorithmes ont changé en fait vers 2019 à peu près et que les contenus sans publicité étaient sous-exposés. Ensuite, effectivement, pour avoir un modèle, on a d'abord eu le soutien du CNC, parce qu'on a une grande chance en France, c'est que la création web est un petit peu financée, même si c'est pas énorme. Hein. Pour donner une idée à nos spectateurs, c'est entre 30 et 50 000 euros par an, et ça peut être renouvelable sur 2 ans.
Donc c'est le Centre National de la Cinématographie.
Exactement, le Centre National de la Cinématographie, qui soutient la création audiovisuelle française et qui a développé des lignes de soutien pour la création web depuis quelques années. Donc ils sont encore modestes au regard de ce que le CNC peut financer en cinéma classique, mais qui sont déjà une grande aide. En tout cas, nous, on n'aurait pas pu exister sans ça. Et enfin, évidemment, on a eu à cœur de rester indépendant au maximum et donc financé par notre communauté. Donc on a créé effectivement du crowdfunding via la plateforme Tipeee d'abord et Utip ensuite. Et donc ça nous a permis d'avoir des revenus un peu plus réguliers. C'était pas énorme. On a réussi à faire entre 2500 et 3000 euros par mois pendant 3 ans, je dirais à peu près, ce qui était déjà confortable et permettait de commencer à avoir un petit peu des revenus fixes. Mais pour être tout à fait transparent, sur 5 ans d'activité, j'ai pu me rémunérer, pareil, tout le monde s'en fout, on va dire 1 an et demi, 2 ans. Donc en fait, tout le reste du temps, ça a été des missions à côté, des boulots, des arrangements, voilà. Et c'est aussi parfois faire les 3-8, hein, parce que la première année, j'étais grand reporter au Figaro et je faisais la série le soir.
Et tout le monde s'en fout, on l'a dit, c'est une grosse communauté que vous avez souhaité rencontrer IRL, donc dans la vie réelle, et ce, dès 2019, puisque c'est le moment où vous avez lancé les premiers spectacles au théâtre, dans des salles, à Paris et en France. Au moment où on se parle, on est quelques jours avant un spectacle au Palais des Glaces, donc le samedi 4 juin. C'était quoi l'idée derrière ces spectacles ? C'était de confronter, de faire sortir le personnage de sa cave pour qu'il aille à la rencontre des vrais gens ?
Complètement, c'était l'idée de casser un peu l'écran qui, en fait, facilite le fait de s'en foutre. C'est plus facile de s'en foutre depuis son fauteuil que quand on a quelqu'un en face qui nous braille dessus en direct. Au début, on n'avait pas du tout pensé se décliner au théâtre. C'est une proposition qui nous a été faite et dont on s'est saisi avec curiosité au début. On était même un peu dubitatif sur le fait que ça puisse donner quelque chose de bien. Et du coup, on a dû repartir un peu de zéro. On a recréé complètement une autre manière de faire, une autre manière de raconter, parce que là, ça dure une heure, donc on ne peut pas avoir, par exemple, les mêmes cadences de mots, ce genre de choses, ni même le même type d'humour. Et il s'avère qu'on a réussi à développer un contact, je dirais, plus qualitatif encore à la communauté. Parce qu'évidemment, le théâtre, ça touche beaucoup moins de gens, même si on a fait quasiment salle comble, je crois, depuis qu'on a lancé la pièce. Mais par contre, les gens qui viennent, pour le coup, sont vraiment saisis pendant une heure. Et on pense que ceux qui sortent de la salle auront peut-être été touchés, bouleversés un peu plus fort qu'en 5 minutes de vidéo. Et alors, je ne vais pas spoiler le spectacle, mais c'est inclus d'ailleurs dans le spectacle cette dimension physique, c'est-à-dire agir avec son corps, changer un petit peu les habitudes, se déplacer dans l'espace. Et donc voilà, on a essayé de créer un séminaire un petit peu de passage à l'acte pour dépasser le seul point du débat et de la discussion autour de ce qui nous inquiète et essayer d'avancer dans le dur des solutions.
Dans la dernière vidéo, donc l'épisode 80 des Tout le monde s'en fout, vous avez fait un appel à contribution vidéo à votre communauté, justement, en lui demandant de vous dire, de dire face caméra, elle aussi, pour quelle raison ou qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas s'en foutre. Et on se rend compte qu'il y a autant d'approches que de gens.
Ce final, il résume complètement le credo de la série. Le credo de la série, c'est... quels que soient les malheurs du monde, quelle que soit l'ampleur des défis qui nous incombent, en fait, la solution, c'est vous, c'est nous, en fait, elle est à l'intérieur de nous, et elle est déjà en marche. On a voulu façonner cet épisode un peu comme une réponse à l'éco-anxiété, au sentiment d'écrasement qui peut toucher toutes les personnes de bonne volonté dans le monde actuel, parce qu'il y a des choses qui progressent, mais il y a aussi... quand même des constats alarmants qui se multiplient, la guerre en Ukraine, des mises en danger pour l'avenir de l'espèce. Et on a voulu, pour le coup, répondre à une critique qui nous a souvent été faite, qui était de pointer les choses un peu négatives trop facilement et pas parler de ce qui se fait. Or, une des choses qu'on dit tout le temps dans la série, c'est qu'il faut encourager l'existant. Même si l'existant est petit, même s'il paraît insuffisant, c'est pas en hurlant sur la petite plante qu'on l'aide à pousser, c'est en l'arrosant. Et donc on a voulu arroser ce que fait de beau, de concret notre communauté qui est déjà en fait en train de changer le monde. Donc c'est un hommage, c'est un remerciement à ceux qui nous ont permis d'exister, ceux qui font le sens de cette série, qui sont le tenant et l'aboutissant.
Si vous mettez en suspens et tout le monde s'en fout, vous l'avez expliqué, c'est que vous travaillez depuis quelques années, je crois d'ailleurs, sur un long métrage et une nouvelle série. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Marc Daubeny ?
Alors, tout à fait, on a une ambition complètement folle qui est d'essayer de passer du YouTube au cinéma, puisque, comme je le disais au début, dans l'équipe, on a beaucoup de gens qui viennent du cinéma. Donc, c'est ça leur appétence de base. Et je vous cache pas que le réalisateur, faire des plans fixes pendant 100 épisodes, il en peut plus. Donc, d'ailleurs, vous noterez que dans la série, on a commencé à introduire un petit peu d'autres manières de filmer pour le soulager un peu, le pauvre. Et donc là, on a envie de faire un peu comme avec le théâtre, c'est-à-dire de remettre le concept en question et de refaçonner ça d'une manière complètement différente pour imaginer un road movie et donc vraiment jouer la carte de qu'est-ce que ça donne ce personnage-là confronté à la réalité du monde et confronté à cette question de... c'est bien de faire des constats, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on met les mains dans la glaise pour fabriquer un pot? Et arrêter de se morfondre, parce que finalement, on pense que ce qui nous rend malheureux, c'est de subir. C'est pas forcément les informations de contexte, parce qu'on voit que dans des pays parfois soumis à des conditions terribles, on trouve des gens très heureux. Donc en fait, c'est vraiment plutôt un rapport au contexte que le contexte lui-même qui va définir notre bien-être. Et donc on pense que il est important de passer aux actes et que notre personnage véhicule un peu ce modèle-là pour donner un peu des perspectives d'un futur qui fasse envie. Aujourd'hui, une des choses les plus complexes dans notre société, c'est la difficulté à raconter un futur qui fasse envie. Et donc, c'est ça dont on voudrait essayer de se saisir. Il y a beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, hein, qui témoignent de ça, notamment en science-fiction. C'est très dur d'imaginer la suite, et sans que ce soit les zombies ou l'apocalypse, en gros. Et donc, on va essayer de proposer une alternative de lecture.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc de Bonny.
Merci, Steve.
Et pour plus d'infos, rendez-vous sur ettoutlemondesenfout.fr. À bientôt dans l'atelier des médias.
À bientôt.
C'est bientôt la fin de cette émission, le moment de Mondoblog Audio qui vous fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, en France, on a fêté la radio, un média qui, selon des calculs pas forcément très savants, a soufflé cette année sa 101e bougie. Fumilayo Asanvi, mondoblogueur et podcasteur béninois, s'est interrogé sur la place de la radio dans nos vies, notamment celle qu'elle occupe dans la vie des Africains. Il nous parle aussi du podcast, selon lui, la nouvelle façon d'écouter la radio.
À Paris, 8h30. Écoutez-vous toujours la radio en flux direct sur un bon vieux poste? Probablement que oui, c'est encore le mode classique d'écoute, mais plus pour très longtemps. Aujourd'hui, la bande FM s'est développée. Depuis quelques années, l'audio digital prend de plus en plus de place grâce au podcast. Bref, le podcast est vraiment devenu une nouvelle façon d'écouter la radio. Les radios ont dû s'adapter et se positionner sur ce nouveau format de contenu qu'on écoute sur Internet. Comment les radios se sont-elles positionnées sur le format du podcast? Comment les podcasts se sont mis au service des radios? Ces questions sont encore en développement et donc toujours d'actualité. Un podcast de rattrapage est tout simplement une émission diffusée en radio qui est disponible à la réécoute quand vous le voulez, sur les plateformes de podcast. Mieux, c'est du replay. Et ça, c'est devenu la mode. Chaque émission de radio a désormais sa version podcast. Et cette présence des radios sur les plateformes de podcast n'est pas propre qu'aux émissions d'actualité ou de politique. Il y a de tout. Même les émissions qui ne diffusent que de la musique sont disponibles en podcast. Pour développer leurs offres digitales, les radios ont également proposé des podcasts originaux ou natifs.
Bas les pattes.
Concrètement, elles ont produit des émissions destinées à être écoutées uniquement sur Internet. Des émissions qui sont diffusées exclusivement sur les plateformes de podcast. Des formats faits pour le digital et pas pour la radio. Cela se développe tellement que certaines radios y consacrent des pages entières sur leur site. Le constat, c'est que l'on retrouve dans ces émissions numériques des formats qui ont moins de viabilité en radio. Le podcast permet en effet d'explorer de nouveaux formats, comme par exemple la fiction ou les programmes pour enfants.
L'Afrique en compte. Récits d'ici et d'ailleurs.
Les radios ne se sont donc pas contentées de proposer des contenus déjà diffusés en les mettant sur les plateformes, mais les ont nourris avec des contenus originaux. Avec l'avènement du numérique, tous les médias ont évolué et l'Internet a profondément bouleversé les habitudes de consommation des médias. Au lieu d'acheter un journal, une télévision ou une radio, aujourd'hui, on a juste besoin d'un smartphone ou d'un ordinateur et le tour est joué. On peut y lire son journal, écouter ses émissions de radio préférées et y regarder tranquillement la télé. Si les auditeurs achètent des smartphones à la place de postes radio, le meilleur moyen pour les radios de rester attractives est d'être présente sur ces gadgets. La radio a donc dû s'adapter. Et la pandémie de coronavirus n'a fait qu'accentuer cette perte de vitesse des modes classiques d'écoute de la radio. Grâce aux différents confinements, les radios numériques et l'écoute des podcasts ont connu encore plus de succès. Quand on sait qu'écouter la radio fait partie du quotidien de nombreux Africains, on attend de voir comment l'Afrique va s'emparer du podcast. plus de la moitié de la population africaine écoute en moyenne 2 heures de radio par jour. C'est énorme pour ce vieux média. La seule ombre au tableau qui pourrait mettre des bâtons dans les roues du podcast, ce sont les problèmes de connexion et leurs coûts encore élevés pour beaucoup d'Africains. C'est sûr, connexion hasardeuse et podcast ne feront pas bon ménage.
Mondoblog.org.
C'était Fumilayo Asanvi, mondoblogueur et podcasteur béninois, prolifique et doué. Prenons-en de la graine.
RFI.
On peut le lire et l'écouter sur son blog fumi.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou encore l'appli Radio France. Mettez-nous des étoiles sur les plateformes où vous le pouvez et laissez un commentaire pour donner envie au plus grand nombre de rejoindre notre communauté d'auditeurices. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.